Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Le titre, la foi, vous laisse tout de suite augurer que je ne vais pas aborder toute l'étendue d'un domaine aussi vaste. Et parce que la foi est une réalité vivante, j'ai écarté l'exposé systématique qui ressemble trop à une autopsie. Je vais vous proposer plusieurs approches qui seront comme des prises de vue sous divers angles, des angles que nous allons trouver à travers une série de textes bibliques. Et mon but ne sera pas de tout dire sur la foi, mais de trouver des points qui pourront nous stimuler. Aujourd'hui, je vous propose deux orientations. La première, que j'ai intitulée « De la foi considérée comme une relation ». Ou si l'on préfère le dire autrement, « La foi n'est pas une glande ». Et le deuxième point, de la foi à la foi, ou encore comment se tenir entre la foi qui ne veut rien savoir et la foi qui prétend tout expliquer. Je vous propose une lecture introductive tirée de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 21, verset 18. Comme Jésus revenait à la ville de bon matin, il eut faim. Voyant un figuier près du chemin, il s'en approcha. Mais il n'y trouva rien, que des feuilles. Il lui dit, « Jamais plus tu ne porteras de fruits. » À l'instant même, le figuier sécha. Voyant cela, les disciples furent saisis d'étonnement et dirent, « Comment à l'instant même le figuier a-t-il séché ?» Jésus leur répondit, « En vérité, je vous le déclare, si un jour vous avez la foi et ne doutez pas, non seulement vous ferez ce que je viens de faire au figuier, mais même si vous dites à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer », cela se fera. Tout ce que vous demanderez dans la prière avec foi, vous le recevrez. » Et puis, dans l'Évangile selon Luc, deux versets tirés du chapitre 17, les versets 5 et 6, les apôtres dirent au Seigneur, « Augmente en nous la foi. » Le Seigneur dit, « Si vraiment vous avez de la foi gros comme une graine de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et va te planter dans la mer, et il vous obéirait. » Si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, « Déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. » Si vous aviez de la foi, vous diriez à cette montagne, « Ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. » Il n'y a que deux façons de prendre ces paroles du Seigneur au sérieux. La première consiste à dire, « Si personne n'a transporté les montagnes, eh bien c'est que personne n'a eu une foi suffisante pour cela, en tout cas jusqu'à maintenant. » Cette réponse simple est à la réflexion peu satisfaisante. En effet, si depuis bientôt 20 siècles, cette foi n'a pas existé, on se demande pourquoi elle existerait un jour. La deuxième façon d'expliquer ces paroles consiste à dire que Jésus s'exprimait là de manière imagée. Et pour que cette voie ne soit pas considérée comme une issue de secours trop commode, il est nécessaire de s'expliquer. L'argument, le premier argument qui pourrait être opposé à la lecture symbolique de ces passages, c'est que le figuier a été desséché, réellement desséché. Mais l'argument perd de sa force si nous comprenons le sens symbolique de cet événement. Et c'est pourquoi je commencerai par là. Matthieu et Luc situent la malédiction du figuier après la purification du temple. Et ce contexte précis est très important. Cette malédiction d'un figuier sans fruit est l'illustration du temple à la religiosité luxuriante mais stérile. L'ancienne alliance, et tout particulièrement le temple, n'a pas apporté le salut espéré. Et nous savons que ni l'un ni l'autre ne le pouvait d'ailleurs. Le salut vient par la nouvelle alliance en Jésus, qui est présentée dans les évangiles comme le nouveau temple de Dieu. La malédiction du figuier, suivant la purification du temple, n'est donc à prendre ni comme un geste de mauvaise humeur de Jésus affamé, ni comme une simple démonstration de puissance pour épater ses disciples, mais comme l'illustration d'un changement fondamental dans le plan de Dieu. Mais il est probable que les disciples n'ont vu alors que l'aspect extraordinaire du prodige. Alors qu'ils se demandent comment cela a pu se faire, Jésus leur dit « Fiez-vous à Dieu. En vérité, je vous le dis, si quelqu'un dit à cette montagne, etc. » Et il est certain que, une nouvelle fois, les disciples ne comprennent pas la portée des paroles du Seigneur. Et la preuve nous en est donnée quand les apôtres demandent « Seigneur, augmente-nous la foi. » Sous-entendu, que nous puissions, nous aussi, faire des prodiges. Et Jésus leur répond « Mais si vous aviez de la foi comme un grain de moutarde, vous diriez à ce mûrier, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il le ferait. » On interprète souvent la parole du Seigneur comme un jugement sur la petitesse de la foi des disciples. Plus petite donc qu'un grain de moutarde. Si elle avait été plus grosse, alors oui, les miracles évoqués auraient pu s'accomplir. Et c'est pourquoi certains chrétiens font des exercices spirituels, comme d'autres font de la musculation, pour que leur grain de moutarde atteigne la taille d'un pois chiche. Mais lorsqu'on arrête les exercices, vous savez que les muscles se dégonflent, comme la foi de ceux qui ont confondu autosuggestion et foi. En réalité, la réponse du Seigneur rompt avec la logique des disciples. Ils ne s'engagent certainement pas dans une estimation de la grosseur minimum de la foi pour qu'elle accomplisse des miracles. Et pourtant, direz-vous, c'est bien lui qui compare la foi à un grain de moutarde. C'est vrai, mais que signifie cette comparaison ? L'utilisation de cette image, notamment dans les paraboles, indique qu'en parlant de grains de moutarde, Jésus veut tout simplement évoquer ce qu'il y a de plus petit. J'imagine qu'aujourd'hui, il aurait dit « si vous aviez un atome de foi ». Dans ces conditions, ce que Jésus veut dire à ses disciples, c'est ceci. Ne croyez pas que les miracles dépendent de la grosseur de votre foi. La foi la plus petite suffit pour transporter les montagnes. En d'autres mots, ce qui importe, ce n'est pas d'avoir une grande foi, mais d'avoir la foi. Et nous voici donc sur une autre piste où nous devons réfléchir non à la quantité, mais à la nature même de la foi. Dans ma famille, on raconte que mon père et ma tante, dans leur petite enfance, avaient été surpris en train d'opérer un poulet pour essayer de trouver son âme. Alors, il ne manque pas d'histoires plus ou moins fantastiques où des savants fous se lancent dans le même genre d'expérience interdite. Alors, inutile d'opérer quiconque, si on ne voit pas plus l'âme dans un crâne que Dieu du hublot de son Spoutnik, eh bien vous ne trouverez pas non plus la foi. La foi n'est pas une glande, ni une protubérance du cervelet. Cela, j'imagine que vous le saviez déjà. Mais si j'emploie malgré tout cette image, c'est parce qu'il n'est pas rare que, malgré tout, la foi soit considérée, de fait, comme une entité qui existerait toute seule, comme quelque chose qui naîtrait et qui devrait normalement se développer. Si personne n'a évidemment une conception si simpliste de la foi, beaucoup ont malgré tout tendance à chosifier la foi. Ne serait-ce que dans leur façon de parler, quand on dit « j'ai la foi, j'ai perdu la foi », etc. Il y a ce que certains appellent une réification de la foi, qui est souvent critiquée à juste titre. Ce qu'il est ici primordial de rappeler, c'est que la foi est foi en. La foi n'est rien sans celui qui en est l'objet, à savoir Jésus-Christ. Notre foi ne peut transporter que ce que le Seigneur veut transporter. Coupée de notre Seigneur, elle n'est qu'une production humaine. La force de la foi n'est pas dans une forte conviction personnelle, elle est dans l'attachement à celui qui est le Tout-Puissant. Et Jésus a décrit cela de manière unique dans la parabole du cep et des sarments, qu'il commente ainsi : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Et ici, nous pourrions, pour employer une autre comparaison, dire que la foi est comme une corde lancée à quelqu'un qui se noie. La corde seule n'a aucune utilité. Serait-elle d'une solidité extraordinaire, si personne ne la tient, eh bien le noyé coule avec sa corde. La foi est le lien qui nous unit au Christ. Nous parlons souvent de la foi de manière absolue. Ce raccourci ne devrait pas nous faire oublier que la foi qui sauve, c'est la foi en Jésus-Christ. Dans sa théologie du Nouveau Testament, Lade fait remarquer que l'expression pisteo eis, croire en, est probablement une création chrétienne. Elle n'a de parallèle ni en grec classique ni dans la Septante. Et elle exprime le mouvement, l'engagement, j'ajouterai une relation dynamique et vivante. Alors si nous revenons maintenant à nos montagnes, que dirons-nous ? Eh bien, que le pouvoir de déplacer les montagnes n'est pas en nous. Dieu seul a le pouvoir de transporter les montagnes. La question qui se pose à nous n'est donc pas « Ai-je en moi la foi capable de transporter les montagnes ?» ou encore « Comment pourrais-je augmenter ma foi pour qu'elle soit capable de cela un jour ?» Notre foi existe ou elle n'existe pas, mais de toute manière, elle ne transporte rien. Elle nous lie au Seigneur qui, lui, peut tout. Et la véritable question qui nous est posée revient à celle-ci. Seigneur, quel bouleversement veux-tu opérer dans nos habitudes ? Quel mûrier veux-tu déraciner dans nos vies, dans nos églises ? La foi qui transporte les montagnes est donc la foi simple de ceux qui ont discerné quelle montagne le Seigneur voulait transporter et par conséquent le lui demande et s'offre comme serviteur. Répondre de cette manière, c'est s'engager dans un travail de discernement. Il est en effet indispensable de croître dans la connaissance de Dieu pour ne pas confondre là nos taupinières avec les montagnes de Dieu. Et nous arrivons au deuxième volet, de la foi à la foi. C'est que la foi n'est pas seulement une relation, elle est aussi savoir. Une formule latine traditionnelle rend compte de cette double orientation. La foi est fides quae creditur et fides quae creditur. Alors, si vous êtes comme moi, eh bien vous avez besoin d'une traduction. Elle peut être donnée sous cette forme. La foi est la foi qui croit, et aussi la foi qui est à croire. La foi qui croit, c'est la foi qui relie. La confiance en Christ, nous venons d'en parler. La foi qui est à croire, c'est le contenu du message proclamé, ce que les théologiens appellent souvent le kérigme, et que nous pouvons traduire par prédication, proclamation. Ainsi, croire, c'est recevoir la prédication apostolique concernant le Christ. Vous trouverez des références dans Romains 10 ou dans le premier chapitre de la première aux Corinthiens, dans Éphésiens 1, etc. Il est indéniable que dans le Nouveau Testament, le mot foi prend aussi le sens de connaissance révélée. L'épître de Jude parle de la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Quand il est question du mystère de la foi dans 1 Timothée 3, 9, c'est la foi en tant que savoir révélé qui est concerné. 1 Timothée 4 associe encore parole de la foi et belle doctrine. En d'autres mots, et pour résumer, la foi a un contenu. Elle n'est pas assimilable sans plus à une rencontre mystique, à une expérience vitale. C'est aussi le portrait de celui à qui nous faisons confiance. En mettant en évidence cette double signification de la foi dans le Nouveau Testament, nous sommes amenés à réfléchir sur la relation entre croire et comprendre. Et cette relation a été souvent examinée au cours de l'histoire, mais elle n'a pas été souvent paisible. Si nous tombons facilement d'accord avec saint Augustin qui dit « Si vous ne croyez pas, vous ne comprendrez pas », nous ne le saurons peut-être pas aussi facilement avec Alexandre Vinet qui écrivait « On peut croire plus ou moins bien, selon qu'on a mieux ou moins bien compris ». Ceci, je l'avoue, a grandement l'air d'un paradoxe, et d'un paradoxe téméraire, après qu'on a tant entendu les incrédules déclarer que, ne pouvant comprendre, ils ne pouvaient pas croire, et après que, de concert, tous les chrétiens leur ont répondu qu'ils comprendraient dès qu'ils auraient cru. La prétention de tout comprendre est une prétention absurde. Tout comprendre, c'est comprendre Dieu, et qui comprendrait Dieu serait Dieu. Il faut donc croire afin de comprendre. Mais ceci, bien entendu, nous ajoutons qu'il faut comprendre afin de croire, ou tout au moins de bien croire. Si vous me permettez une autre citation du même Vinet, nous sentirons bien une autre difficulté du problème. Il écrit « Dès qu'on se met à faire de la théologie, proprement ainsi nommée, il faut la faire franchement, il faut la faire bonne. » Si vous ne voulez pas la faire ainsi, n'en faites point. Je respecte, j'aime la foi des simples, mais je ne peux souffrir la spéculation qui ne veut spéculer qu'à son appétit, les recherches qui ne cherchent point, la théologie qui s'arrête à mi-chemin parce qu'il ne lui convient pas d'aller plus loin, celle qui raisonne et qui maudit le raisonnement, celle qui se fâche quand on ne veut pas s'arrêter où elle s'est arrêtée. Après une telle diatribe, on hésite un peu à continuer. Mais l'allergie à la théologie que l'on rencontre parfois dans nos milieux montre que la relation croire-comprendre n'est pas toujours au beau fixe. Quand un pasteur déclare en chair « Dieu merci, je ne suis pas théologien », eh bien, il extériorise une méfiance instinctive. Pour lui et pour beaucoup d'autres, sans doute, il y a incompatibilité entre la foi et les études théologiques universitaires. Bon, il ne faut certainement pas exagérer une déclaration comme celle-là. J'espère que sa parole a dépassé sa pensée. Mais nous voyons bien qu'il n'est pas rare que le comprendre soit présenté comme l'ennemi du croire. Les milieux évangéliques traditionnels ne sont pas les seuls, loin de là, à se méfier de la réflexion en matière de foi. Et je vais m'appuyer pour cette dénonciation sur quelqu'un au-dessus de tout soupçon. C'est John Stott, dans « Plaidoyer pour une foi intelligente », qui cite trois exemples d'anti-intellectualisme. Le catholicisme, qui met l'accent sur une pratique fidèle et l'observance d'un certain nombre de rites, aux dépens d'un culte réfléchi. Dans le même sens, on peut noter l'indifférence de la hiérarchie à l'étude de la Bible. Ce qui lui importe, c'est que la foi de l'Église soit respectée. Stott cite ensuite ce qu'il appelle les progressistes, qui se soucient avant tout d'action sociale et qui se désintéressent de la doctrine. Et puis, comme dernier exemple, il donne les pentecôtistes et charismatiques, car pour eux, l'expérience est le critère majeur de la vérité. Ils sont fréquemment anti-intellectualistes. Et il cite un responsable qui déclare que ce qui importe en dernier ressort, ce n'est pas la doctrine, mais l'expérience. Il faut ajouter que l'accent sur l'expérience n'est certainement pas l'apanage des pentecôtistes et charismatiques. Mais ce qu'on peut noter aussi, c'est qu'il est en phase avec la société actuelle, en prise directe avec ce qu'on pourrait appeler l'idéologie du vécu. L'affectif est devenu normatif dans la recherche de la vérité. La sincérité se substitue à l'objectivité, et ce qui est important dans un texte, par exemple, c'est qu'il m'interpelle quelque part dans mon vécu. La foi, souvent dite du cœur, recherche l'expérience fusionnelle et se méfie du recul, de la distance qui est pourtant nécessaire à la réflexion. André Frossard est un exemple intéressant du refus de la réflexion. Il estime qu'une fois qu'on croit, tout devient simple. Peut-être est-ce votre avis aussi. Puisque Dieu peut tout, eh bien, il n'y a pas de question à se poser une fois qu'on a franchi le pas. Alors, à nos yeux, le malheur, c'est qu'il gobe sans discernement tout ce qui est fait au nom de Dieu, de Lourdes à Fatima en passant par Marthe Robert, et on pourrait ajouter d'autres exemples. Et cette foi du charbonnier qu'il revendique est suspecte. Elle est suspecte chez quelqu'un qui, précisément, n'est pas un charbonnier. Que le charbonnier croit de cette manière, rien de plus normal. Mais que l'universitaire veuille croire comme lui, voilà qui est suspect. Il montre qu'il fonctionne à deux vitesses, qu'il a fait une coupure dans sa vie, qu'il refuse en tout cas de penser sa foi. Et on peut se demander, est-ce que ce discours, un peu séduisant malgré tout, est conforme aux paroles de Jésus quand il déclare, dans Matthieu 11, 25 par exemple, « Je te loue, Père, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents et que tu les as révélées aux tout-petits. » Ou est-ce que cela est conforme à ce qu'écrit Paul dans 1 Corinthiens 1 « Je détruirai la sagesse des sages, j'anéantirai l'intelligence des intelligents » avec cette question à laquelle nous ne pouvons pas échapper. Dieu n'a-t-il pas rendu folle la sagesse de ce monde? Ma réponse est non. Parce que la foi bouleverse les présupposés, c'est indéniable, mais pas le raisonnement. Il n'est donc pas normal que les chrétiens débranchent l'intelligence qu'ils utilisent à leur travail, par exemple, pour vivre leur foi sur un mode complètement irrationnel, voire aberrant. La foi n'est pas un cri inarticulé, une vibration émotive, une incantation au refrain stéréotypé, mais une compréhension de l'existence devant Dieu et dans le monde, sans cesse mesurée à une parole claire qui la fonde et qui la critique. C'est Jean Zumstein qui écrit cela. Il me semble que cette parole est juste, et nous pouvons le vérifier en relisant ensemble le premier chapitre de la première épître aux Corinthiens. Car Paul écrit bien que la sagesse du monde est devenue folle parce qu'elle n'a pas reconnu Dieu. Mais en écrivant cela, il ne condamne pas l'intelligence en tant que telle. C'est l'intelligence des intelligents, la sagesse des sages qu'il désavoue, c'est-à-dire l'intelligence de ceux qui font de leur sagesse le critère ultime, le crible de toute révélation. En d'autres mots, n'est pas sage tout ce qui se prétend sage. Nous le savions. Dans l'Épître aux Romains, Paul a développé sa pensée sur ce point. La folie des hommes qui se prétendent sages est manifeste dans leur idolâtrie. L'idolâtrie et l'immoralité étant ici le fruit, on peut le dire, de la sagesse humaine. Et il dit que la vérité est captive de l'injustice. Ce qui signifie que l'homme ne peut parvenir de lui-même à la vraie connaissance de Dieu, et cela à cause de son péché. La réflexion, l'intelligence, ne fonctionne pas en terrain neutre. Le péché oriente la pensée et la tord. On peut dire qu'il la tord fatalement, car depuis sa révolte originelle, l'homme est captif du mensonge. Pour le résumer dans une formule, on pourrait dire que l'homme naturel n'est pas un idiot, mais un révolté. On pourrait ajouter que l'un n'empêche pas l'autre. Il ressort du raisonnement de l'apôtre Paul que le monde, en tant que lieu de la révolte contre Dieu, ne peut accoucher d'une sagesse qui conduise à Dieu, et par conséquent à la vie et au salut. Paul ne déduit pas de cela que l'intelligence elle-même soit mauvaise. Au contraire, il mentionne ensuite la sagesse qu'il enseigne aux chrétiens adultes. Nous ne devons donc pas conclure qu'un message est d'autant plus évangélique qu'il est simpliste. L'Évangile, s'il n'est ni l'achèvement d'une sagesse humaine, ni une possibilité parmi d'autres de connaître Dieu, ni la première étape de la révélation, n'en est pas moins une sagesse, et on pourrait même dire l'alpha et l'oméga de la connaissance. Le message de Paul, dans 1 Corinthiens 1, pourrait, me semble-t-il, se résumer ainsi. La croix, c'est un choix, le choix d'une autre sagesse, d'une autre puissance. Ni la sagesse attendue par les Grecs, ni la puissance espérée par les Juifs. Et si Paul a centré son message sur la croix, c'est pour qu'il soit clair que celle-ci n'est pas une parenthèse. La résurrection n'est pas la... Et dans le message de la croix, il ne se dépasse pas. Le message de la croix n'est pas le béaba de l'Évangile. C'est la révélation de la sagesse infinie de Dieu. Le message de la croix ne se dépasse pas, il s'approfondit. Et nous pouvons comprendre cela en entendant aussi ce que Paul écrit aux Romains quand il emploie une formule qui a fait couler beaucoup d'encre en disant que la justice de Dieu est révélé par la foi, pour la foi. La formule est « ek pisteos eis pistin » pour les initiés. Il me semble que nous pouvons comprendre cette formule un peu énigmatique en paraphrasant la parole suivante de l'Évangile où il dit « À celui qui a, il sera donné. » Vous vous souvenez de cette parole? Bien, nous pourrions dire, à celui qui a la foi, il sera donné plus l'intelligence de la foi. Ce n'est pas parce que la foi vient de l'action de l'esprit et non de l'intelligence que la foi ensuite n'a rien à voir avec l'intelligence. Ce n'est en tout cas pas la Bible qui enseigne cela, en aucune de ses pages. Et en fait, nous aurions pu déjà nous en douter, nous aurions pu le postuler dès le départ, car il est impensable que le Dieu créateur s'oppose au Dieu sauveur, comme il est inconcevable que l'esprit qui habite les chrétiens d'aujourd'hui renie ce qu'il a inspiré aux auteurs de la Bible. Un des pièges de notre temps, et nous en reparlerons demain, est certainement de mettre au crédit de l'Esprit-Saint ce qui est en fait une influence de notre monde, en particulier le privilège accordé à l'émotion, au vécu, au reality show, au tout tout de suite. Nous ne devons certainement pas réduire le rôle de l'Esprit à certaines de ses manifestations, et pas lui dire à l'avance comment il doit agir. Et la question que nous pouvons nous poser quand nous réfléchissons au rapport entre le croire et le comprendre, et celle-ci, est-il inimaginable que les théologiens puissent être eux aussi conduits par l'Esprit Saint. C'est une question sur laquelle vous pouvez méditer aujourd'hui. Et puis, une autre question qui nous concerne directement et qui certainement ne nous laissera pas en repos, c'est pourquoi refuser de penser notre foi? Je terminerai en évoquant un petit livre d'actualité, l'opuscule de Jean-Denis Grège, Les pièges de la foi, qui a été édité cette année. C'est une lettre ouverte aux évangéliques. Et nous avons bien besoin qu'on nous stimule. Et dans cette lettre, il touche juste parfois, mais comme sont traités aussi entre le livre de théologie et le pamphlet sans réussir à être l'un ou l'autre, eh bien, nous avons parfois du mal à nous y retrouver, mais il est juste de dénoncer aussi ce qu'il appelle l'hypertrophie de la foi. L'hypertrophie de la foi mal comprise, de cette foi qui donne une place indue à l'homme devant Dieu. Mais en même temps, je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire que la foi doit trouver sa place, sinon la grâce perd son sens, sinon l'alliance que Dieu veut établir avec nous devient une initiative de Dieu qui ne demande aucune réponse des hommes. Je vous remercie de votre attention.